en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des sciences morales et politiques a organisé la rencontre nationale des trinômes académiques à l'occasion de leur 20e anniversaire. La rencontre était placée sous le parrainage du Premier ministre François Fillon et c'est le 30 mai 2008, au Palais de l'Institut, que l'Académie des sciences morales et politiques a organisé à cette occasion une journée d'études. Dans le cadre de la cérémonie du 20e anniversaire des trinômes académiques, sous la présidence de François Théré, président de l'Académie des sciences morales et politiques, a donc été organisée une journée d'études avec pour thème, en seconde partie de matinée, « Guerre et conflits au XXIe siècle ». Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la communication d'Henri Korn, membre de l'Académie des sciences, « Les nouveaux enjeux de la biosécurité ».
Monsieur le Président, messieurs les officiers généraux, chers confrères, mesdames, messieurs, je vais vous présenter un résumé des travaux du comité Sciences et Sécurité de l'Académie des sciences que j'ai l'honneur de présider. Il en est sorti un rapport qui va être présenté aux différents ministres concernés par les problèmes dont je vais vous parler et il sera publié ensuite par les presses universitaires de France. Le rapport lui-même a été rédigé par Patrick Berche, professeur de microbiologie à l'Université René Descartes, dont il est le doyen, par le général Patrice Binder, médecin général, directeur du service de santé des armées, et par moi-même, professeur honoraire à l'Institut Pasteur, membre de l'Académie, et ayant eu de nombreuses fonctions dans les divers ministères de la Défense qui se sont succédés. Alors, quel est le contexte de toutes ces réflexions? Notre travail s'inscrit dans le cadre d'une réflexion et d'une démarche commune à toutes les académies des sciences du monde entier, qui toutes s'interrogent sur les nouveaux enjeux de la biosécurité, d'où le titre de cette communication. Il s'agit pour nous tous d'avertir nos gouvernements respectifs, le public de nos pays et les scientifiques eux-mêmes, qui n'en sont pas toujours conscients, des risques que nous pouvons tous courir si les progrès des sciences de la vie sont détournés de leur objet et s'ils sont dévoyés ou mis au service de groupes terroristes, voire d'États terroristes également. L'histoire des programmes scientifiques entrepris dans le monde témoigne amplement que ces craintes sont loin d'être fondées. Je parle maintenant des États. Ainsi, notre rapport explique longuement ce qu'il en a été des programmes développés par les États-Unis, par le Japon, par l'URSS, par le Royaume-Uni, par la France à un certain moment, de sorte qu'un appel de la Croix-Rouge a été lancé en 2002 à quiconque ayant des activités dans les sciences de la vie et en biotechnologie pour que, ouvrez les guillemets, se développe une culture de responsabilité cohérente avec les développements de l'éthique scientifique et des lois existantes. Cet appel s'adresse au premier chef à la communauté scientifique, mais pas seulement à elle. Et à cet égard, je dois dire que certains d'entre nous regrettent beaucoup que les liens qui existaient entre la communauté scientifique et la communauté de défense aient été complètement rompus dans les années 90. Et c'est seulement maintenant qu'ils sont remis dans un état à peu près respectable, mais on est encore loin du compte. En fait, les devoirs auxquels sont soumis les membres des gens des sciences de la vie sont semblables à ceux auxquels font face les physiciens depuis le manifeste Rochelle-Einstein de 1955 qui faisait suite aux explosions atomiques que l'on connaît. Pour leur part, les biologistes ne se sont limités volontairement qu'une seule fois dans leur histoire. C'était à Al-Zilomar en 1975, lorsqu'ils ont banni toute recombinaison de gènes et de matériel génétique provenant d'espèces différentes. Désormais, il s'agit de veiller et de tout faire pour empêcher que soit compté un jour à ce que des tiers utilisent les armes biologiques, dont je rappelle qu'elles sont simples, relativement faciles à préparer, d'un emploi militaire malaisé, mais d'un impact incalculable autant au plan de la santé publique et de l'environnement que bien entendu au plan psychologique. On a pu dire que c'était l'arme nucléaire du pauvre, mais encore une fois, je vous ai déjà dit que les États les plus modernes n'échappent pas à la tentation éventuelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire comprendre ce que sont les conventions internationales contre la prolifération des armes biologiques et surtout quelles en sont les limites. Le sujet est énorme, mais je vais évoquer deux accords, celui de 1925 et celui de 1972. Le protocole de Genève de 1925 interdit le recours aux armes chimiques et il l'étend aux armes bactériologiques. Mais il laisse au point la possibilité de les mettre au point, de les stocker, de les fabriquer, car il cessera d'être obligatoire, entre guillemets, à l'égard de toute puissance ennemie dont les forces armées ne respecteraient pas le protocole. Aujourd'hui, sur les 134 États parties du protocole, 25 n'ont pas encore levé leurs réserves, en dépit de leur ratification, dont entre autres l'Inde, la Chine, la Syrie, Israël et les États-Unis d'Amérique, mais à la décharge de ce dernier, il faut dire que le président Nixon a renoncé aux armes biologiques en 1969. Il y a aussi et surtout aujourd'hui la convention de 1972 d'interdiction des armes biologiques qui est entrée en vigueur en 1975. Certes, 171 pays l'ont signée et 155 l'ont ratifiée. Mais il est devenu de plus en plus difficile, et j'insisterai là-dessus tout à l'heure, sur la difficulté qu'il y a d'établir une frontière nette entre les coopérations à des fins pacifiques et des transferts susceptibles d'utiliser à des fins militaires ou terroristes. Cette distinction relève du tour de force diplomatique. De plus, et surtout, si la destruction des stocks existants d'armes biologiques est prévue par la Convention, les États parties ne sont tenus ni de les déclarer, ni d'apporter des preuves de leur élimination, de sorte que l'absence d'un véritable régime de vérification est l'une de ses principales faiblesses qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Et je dois dire que de nombreux pays, je ne vais pas allonger la liste maintenant, mais on donne le sentiment que leurs réserves ne sont que de façade. Je voudrais maintenant évoquer aussi vite que possible plusieurs traits spécifiques aux sciences de la vie et à leurs conséquences quant à notre propos. J'examinerai, premièrement, ce qu'il en est des dangers qui résultent de leur caractère dual. Deuxièmement, des tensions et des incertitudes qui en résultent chez les chercheurs eux-mêmes. Troisièmement, des risques qu'ils peuvent entraîner pour la liberté de la recherche. Quatrièmement, des solutions que l'on peut envisager à la suite des réflexions anglo-saxonnes, puis des nôtres. Premièrement, les risques liés au caractère dual des recherches. D'une façon générale, des commissions nationales et internationales ont fixé la liste des agents les plus dangereux pour l'homme, les animaux et les végétaux. Il existe des listes dites du groupe Australie, des listes américaines et européennes. Émergent les plus redoutables, comme la variole, la charbon, la peste, les toxines du botulisme, la tularémie et les fièvres hémorragiques. C'est ce qu'on appelle la classe A de la classification du CDC d'Atlanta. Leur circulation et leur acquisition à des fins de recherche sont strictement réglementées, mais des fuites ont été ici et là signalées. Plus encore, des dangers nouveaux apparaissent du fait des progrès des sciences de la vie et de la biotechnologie. Par exemple, je vous donne juste quelques exemples assez brièvement, l'introduction de gènes dangereux, de toxines botuliniques ou colériques du charbon, dans des bactéries inoffensives au départ, comme les colibacilles. La fabrication de gènes rendant les bactéries très résistantes grâce à une technique d'ELISA shuffling. La création de novo d'agents encore inconnus de tous, bactéries, virus, toxines, par manipulation génétique. La fabrication de souches très dangereuses, très virulentes, d'encéphalite vénézuélienne à partir de souches sauvages, initialement peu ou non dangereuses. La liste est longue. Deuxièmement, les responsabilités éthiques et pratiques qui résultent du caractère dual des recherches sont donc très difficiles à gérer. Et des tensions en résultent, puisque, d'une part, c'est la définition de leur caractère dual, ils peuvent être mis au service du bien-être général et de l'amélioration des conditions de vie, de la prévention et du dépistage, des grandes épidémies de leur traitement, mais d'autre part, ils doivent rendre prudents en matière de dissémination, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'assurer un passage des connaissances dans la perspective exclusive de la prévention des soins de recherche à des visées pacifiques. Les tensions et les incertitudes qui en résultent sont les suivantes. Certaines épidémies et des pandémies peuvent être d'origine naturelle, comme la propagation du West Nile encephalitis, par exemple, récemment, ou émergente. Mais aussi, elles peuvent être criminelles. Et la distinction entre ces deux volets est extrêmement difficile. Une autre difficulté résulte de ce que la détection par des senseurs et la prévention par des vaccins ou le traitement par des anticorps sont les mêmes, qu'il s'agisse de leurs applications militaires, civiles ou criminelles. Plus encore, les recherches à titre de prévention supposent que l'on dispose évidemment des germes, des virus ou des toxines d'intérêt, malgré l'interdiction de se les procurer. Il y a là une contradiction presque insoluble à l'heure actuelle. Aussi, des recherches pacifiques peuvent toujours être interprétées par des pays tiers comme suspects, justifiant à leurs yeux de se livrer dans une surenchère que justifierait l'argument d'une autodéfense dont j'ai parlé tout à l'heure. Troisièmement, quels sont les risques qui pèsent dès lors sur la liberté des recherches et des publications ? Dans un certain nombre de pays, en particulier aux États-Unis, les autorités militaires, mais aussi le Homeland Security, ont tenté d'imposer une censure sur les travaux, analogues au secret défense qui entoure certains des travaux dans notre pays. Et on doit effectivement se poser la question. Était-il, par exemple, opportun de publier dans une revue à grande diffusion la séquence du virus de la grippe espagnole, H1N1, qui a entraîné des dizaines de millions de morts en 1918, et de révéler la technique détaillée pour en faire la synthèse ou celle du virus de la poliomyélite au risque de voir réapparaître des fléaux disparus. Ou encore la manière de rendre inefficace un vaccin contre le charbon. Tout ça a été publié. D'introduire un gène du virus Ebola dans le rétrovirus du sida, ou encore la publication de molécules mimant les effets des toxines. Cette question est d'autant plus vive que les sciences de la vie sont imprévisibles et possède un fort pouvoir innovant. Un exemple en est la découverte, par hasard, en étudiant comment changer la couleur des pétunias, du phénomène d'interférence, ARN silencing, un phénomène de régulation des gènes qui s'est révélé conduire à une des techniques les plus puissantes de la biologie moléculaire. J'en viens à la question essentielle. Comment, dans un tel contexte, protéger la liberté de la recherche qui est une condition intangible de celle-ci, mais qui peut entrer en contradiction avec les contraintes imposées par les impératifs de sécurité et de surveillance. Des individus, des groupes, des états suspects, qu'il s'agisse de bioterroristes, de violences diverses, religieuses, fondamentales, opposées aux libertés individuelles, qu'il s'agisse d'états mafieux, voire de certains de nos amis, il ne faut pas rêver. Je ne peux ici citer que les grandes lignes de ce qui est proposé par les institutions académiques, lesquelles se rejoignent maintenant sur les grandes orientations à suivre. L'essentiel en est que la communauté scientifique est indispensable et irremplaçable, puisqu'elle est seule à même de connaître ce qu'il en est, des recherches en cours, des mouvements des chercheurs, des échanges scientifiques, de matériels engagés par les laboratoires concernés. Mais que les pouvoirs publics sont également impliqués par ce travail d'évolution et d'autres gouvernements des chercheurs. Les orientations qui en résultent sont les suivantes. Les orientations dont je vais vous parler résultent de beaucoup de travaux. Je vous les résume. Il s'agit d'abord de réflexions des Académies des sciences des États-Unis et de la Grande-Bretagne, parues dans la revue Science du 8 novembre 2002, qui s'en est fait l'écho. Du rapport Fink de la National Academy of Sciences, intitulé « Biotechnology Research in an Age of Terrorism », émis en 2004. Du rapport Lemon, Globalization, Biosecurity and the Future of Life Sciences, émis en 2008 à la suite du précédent. De la déclaration commune de 67 académies des sciences, signée en novembre 2006. Des mises en garde du Conseil de l'Union européenne de juillet et novembre 2007. Et du travail, bien entendu, du comité que je préside. Parmi les grands principes que nous avons d'adopter, figurent en particulier la nécessité d'une évaluation des projets de recherche et des revues au stade de publication par un comité scientifique consultatif national, semblable au National Science Advisory Board for Biodefense, mis en place aux États-Unis par l'Académie des sciences américaines à la suite du rapport Fink que j'ai évoqué. À l'instar de celui-ci, Ce comité scientifique indépendant jugerait de la dangerosité éventuelle d'une recherche ou d'une publication, et ceci ne concerne qu'environ 1% de celles qui portent sur les bactéries, les virus ou les toxines, à partir de critères bien définis. Alors, je vous les évoque, ils tombent sous le sens, mais pas toujours, en fait. Il s'agit d'interdire les recherches tendant à rendre un vaccin inefficace, rendre les micro-organismes résistants aux antibiotiques, aux antiviraux, accroître le virus d'un pathogène, augmenter sa contagiosité, modifier son spectre d'hôte, etc. D'autres recommandations sont autant de pistes à explorer avec les pouvoirs publics, et ceci concerne au premier chef les ministères de la Défense, de la Recherche, de l'Éducation nationale, de l'Intérieur, conjointement avec les institutions de recherche, INSERM, CNRS, INRA, Institut Pasteur, CEA et INRIA. Il s'agit de promouvoir, et ça va être la conclusion de cet exposé, que j'ai tenté de faire aussi bref que possible, il s'agit de pistes de réflexion. Ce sont les pistes de réflexion que nous proposerons aux ministres que nous allons rencontrer, j'espère, dans un délai court, et au pouvoir public. Il s'agit de suggérer ceci. D'abord, l'organisation d'un forum national dont les principaux thèmes concerneraient en particulier l'information des acteurs sociaux et des scientifiques, des cours de sensibilisation aux risques et aux problèmes éthiques posés par les sciences biologiques, le problème des banques de données et de leurs effets, réfléchir également aux questions juridiques posées par cette toute nouvelle problématique. Deuxièmement, de mettre en place un comité académique de surveillance pour la biosécurité, je viens de vous en parler, pour énoncer les principes auxquels devraient se conformer les agences de moyens, Agence nationale pour la recherche, établissement public et scientifique, commissariat à l'énergie atomique, organisation non gouvernementale, et pouvoir être consulté sur les éventuelles publications à problème. Une réflexion et une action à l'échelon international. Celle-ci pourrait être réalisée en liaison avec divers partenaires, par exemple les instances européennes. Troisièmement, et j'en viens à la fin, la mise en place de deux textes nouveaux. D'abord, un code de conduite et en engagement des biologistes, rappelant les conventions auxquelles les chercheurs, tous les gens qui sont engagés dans la santé publique et les sciences de la vie, devraient s'engager, de respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Convention pour la protection des droits de l'homme et la dignité de l'être humain, la Convention sur les droits de l'homme et de la médecine. Je ne me rappelle pas le contenu. Deuxièmement, ces codes de conduite devront s'appuyer sur la Biological Toxin Weapon Convention dont je vous ai parlé de 2005 pour discuter et promouvoir les actions communes pour la mise en place de codes de conduite pour les scientifiques. Un dernier volet de ce qui peut paraître évidemment sujet à critique parce que là les moyens sont faibles, il s'agit simplement d'alerter les uns et les autres. Les codes de conduite devraient comporter un serment de bonne conduite du chercheur analogue au segment d'Hippocrate auquel doivent s'engager les médecins au terme de leurs études médicales. Un tel engagement rendrait très difficile la collaboration des scientifiques et des médecins et de tous à des actions criminelles auxquelles ils pourraient être sollicités le cas échéant et à crédibiliser le monde de la recherche aux yeux du public. Et quand je dis le monde de la recherche, pas seulement, également des autorités de notre pays qui n'ont pas été jusqu'à maintenant conscientes, je dois dire que nous sommes à cet égard assez en retard par rapport à d'autres, des dangers et des possibilités de contrer les risques dont je viens de vous parler. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre la communication d'Henri Cormes de l'Académie des sciences le 30 mai 2008 lors de la rencontre nationale des trinômes académiques organisée par l'Académie des sciences morales et politiques.